les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Curieuse des ondes et amoureux de la radio, bonjour et bienvenue dans l'émission Les ondes buissonnières, l'émission consacrée aux créations sonores. Cette semaine, nous explorons encore les interactions entre nos sociétés et les fleuves à travers un projet sonore, le projet Archipel de Guillaume Campion et Guillaume Côté, un projet qui mêle musique électroacoustique et documentaire sonore et qui traite de l'accès à l'eau et au fleuve Saint-Laurent dans l'archipel de Montréal. La création que vous allez entendre fait partie du projet Archipel lancé en 2016 et qui est un projet tripartite qui comprend non seulement cette création, mais également un site web interactif avec une carte sonore sur laquelle vous pouvez cliquer pour écouter différents sons associés à différents lieux. Et il y a aussi une application mobile proposant 3 parcours de réalité sonore augmentée en bordure des berges montréalaises. N'hésitez pas à aller y faire un tour et en attendant, bonne écoute.
Montréal est une île. La région montréalaise est un archipel. Et on n'a à peu près aucun moyen de s'en apercevoir. Le seul moyen qu'on a, c'est d'embarquer dans une auto et à partir de la 20, c'est-à-dire dans l'axe du tunnel Hippolyte-La Fontaine, de venir prendre le pont Jacques-Cartier, ce qui nous fait longer le fleuve sur l'autoroute 132.
Construire des autoroutes sur le bord de l'eau, ben je ne vais pas aller traverser 4 voies d'autoroute pour aller marcher sur le bord de l'eau. Ça ne marchera pas.
Souvent, dans ces cas-là, sous le bord des villes, on a des voies ferrées. On prend dans l'est de Montréal, il y a des voies ferrées parce que le port était là. Donc, l'accessibilité est toujours un peu difficile parce qu'il y a des infrastructures qu'on doit franchir.
L'accès aux berges dans Montréal est très souvent problématique à cause de la teneur des terres. Côté sud de l'île, en aval des rapides de la Chine, il y a beaucoup des berges qui appartiennent au port de Montréal.
Notre port est très long, très étroit, surtout à la hauteur de part et d'autre du Pont-Jacques-Cartier. Ça peut pas être plus étroit que ça, là.
Les berges en milieu urbain au centre-ville, ben, tu peux pas te baigner. parce que c'est l'endroit où est-ce qu'on avait les anciens ports.
Avant, quand un navire s'arrimait dans un port, il restait en moyenne 7 à 10 jours à quai.
Au 18e, 19e, ben, on faisait nos transports, nos industries étaient devant les villes du bord de l'eau.
Alors, ça te prend un long linéaire de quai pour tous ces bateaux arrêtés 7 à 10 jours, puis ça te prend des hangars tout le long. Ça, c'est l'ancienne technologie portuaire. C'est celle qu'on a à Montréal. Aujourd'hui, un bateau rentre à 10 heures au port de Montréal. Il décharge 800 ou 1000 containers. Il en recharge 700. 3 heures après, il est parti. Donc, comme ton bateau reste très peu de temps à quai, t'as pas besoin d'un très long linéaire de quai. T'as besoin de profondeur. Il y a une évolution nécessaire du port de Montréal. On le voit d'ailleurs dans l'Est. Ils ont besoin de nouveaux terrains. Ils sont trop à l'étroit.
Aujourd'hui, ces lieux-là sont devenus obsolètes. Et on a un désir, effectivement, de les transformer. Mais souvent, ces lieux-là aussi sont contaminés. Alors, il y a toute une portée environnementale qui est lourde.
Lorsque je suis revenu à Montréal pour le métier de pilote, autrefois, je naviguais au long cours, puis j'étais très peu à Montréal. Mes navigations au long cours m'avaient permis de découvrir les plus belles villes maritimes du monde, puis les activités qu'il y avait en berge, sur l'eau, ou au cœur des havres de ces villes-là. Et puis, en revenant à Montréal, j'ai un peu instinctivement cherché ces mêmes activités dans ma ville maritime et je ne les ai jamais trouvées.
Si on regarde à l'international, le cas qui fait baver tout le monde qui est dans mon domaine de redonner l'accès au fleuve, c'est le cas de Barcelone. Quand pour les Olympiques, en 94, ils ont déménagé le port, ils ont défait les quais, puis ils ont fait des plages. C'est des kilomètres de plage à faire pour l'île de Barcelone.
Le nouveau port de Barcelone a une capacité 3 fois supérieure à celui d'auparavant, et pourtant, il est parfaitement carré et il occupe linéairement 1/5 à peu près de ce qu'était le port avant. Si bien que les 4 autres 1/5 ont permis d'ouvrir le Barcelone sur la Méditerranée.
Il
Ben, à Toronto, on a quand même on a commencé en 2002 avec au centre-ville, au pied de la tour du CN, qui est HTO Park.
Vancouver, avec les redéveloppements du centre-ville. 13 kilomètres.
À Paris, il y a des quais réservés à des espaces commerciaux. On demande aux gens de développer des bars, des restaurants, des discothèques, des centres de danse, des centres culturels flottants. Les gens arrivent avec des projets.
C'est génial! C'est ce que ça prendrait à Montréal. On a fait HTO, on a fait le deuxième, Sugar Beach. Succès. Bon. Puis après, Sugar Beach. On a vu ce potentiel-là à Montréal, dans le Vieux-Port.
Ça, c'est des villes où, mon Dieu, ils vivent au fil de l'eau. À chaque année, on voit des projets naître là-bas, puis on se dit comment ça se fait qu'ils réussissent à faire ça, et qu'à Montréal, on les attend encore.
Moi, j'ai eu la chance en 80... Ça devait être l'été 86. Oui, c'est l'été 86. La responsabilité que j'avais, c'était l'étude du nautisme et de la baignade. Et j'ai été amené comme ça à aller sur les 45 ou 50 sites où il y avait eu des plages à Montréal historiquement. Ah! Des endroits fabuleux!
Il y a des plages baignables déjà à Montréal. Pas juste la plage Dorée, il y en a une au Cap-Saint-Jacques où on se baigne dans le lac des Deux-Montagnes. Puis partout autour de l'île Montréal, là, tout dans l'ouest, là, sur le bord du lac Saint-Louis, là, il y a plein de berges. On pourrait refaire des belles plages là, qui seraient accessibles au public. Là.
Des fois, les accès sont là, ils sont simplement pas aménagés. Des fois, ce sont des anciens accès qui ont été abandonnés et il ne s'agit que de les revitaliser.
A priori, là où il y a déjà une plage, il ne devrait pas y avoir d'empêchement à ce qu'il y en ait une. C'est ça le principe de départ. Si les gens sont déjà baignés, on ne va pas être fou. À Verdun, par exemple, là où le maire de Verdun veut mettre la plage, c'est effectivement un endroit somptueux.
Le problème de la plage ne date pas d'hier à Verdun. Parce que dans l'ADN de Verdun, dans l'histoire de Verdun, il y a une magnifique plage qui a perduré jusqu'à les années 60. Puis, depuis une dizaine d'années, les gens ont redécouvert la fleur, ont redécouvert le milieu aquatique qu'on avait, la faune incroyable. Puis maintenant, on en profite. Les gens en profitent plus.
C'est fou, la quantité d'oiseaux, tout ce que tu veux.
Tu peux faire du kayak, du rafting, tu te baignes, à 3 minutes de chez vous, là, où les gens pêchent à la mouche.
Moi, je pêche quasiment tous les jours, pas ici. Les deux meilleures places, c'est ici où je pêche, puis à Rumès, là-bas. Moi, je pêche le doré, mais pas une de sturgeon, de chigan, Il y a Barbu qui appelle. Ça mord beaucoup ici.
Il y a près de 72 espèces de poissons dans le fleuve Saint-Laurent. On prend des esturgeons de 4-5 pieds de long là, à 15 minutes du pont Jean-Cartier. Ça fait 3e année que je débute cette année en pêche sur glace, mais 4e année pêche guidée aussi sur le Saint-Laurent. J'ai accueilli l'an passé 15 000 personnes, dont 5 000 enfants entre 5 et 12 ans. Mon but à long terme, c'est de faire découvrir le fleuve Saint-Laurent. Là. Les gens oublient qu'on est entouré d'un fleuve. C'est pas aussi infesté que les gens le pensent. Puis le poisson est comestible.
Le fleuve, depuis 20 ans, il est beaucoup moins pollué qu'il l'était dans les années 60-70. Donc, à mesure que le poisson est renouvelé, les stocks de poissons sont renouvelés, bien, le niveau de contamination dans le poisson diminue.
Moi, ça fait à peu près comme depuis que je suis au monde que je pêche une fleuve. Puis, je connais quasiment toute la fleuve. Aller du pont Jean-Cartier, avant, c'était sanctuaire en haut, aller jusqu'à la Noraie. On voyageait ça, au Château-Canard, puis on couchait dans les îles, là, avant que ce soit Ipac. On marchait dans les marais, on trouvait du canard en masse. Là. Mais quand le quai est là, le printemps, de bonheur, là, ça mord terriblement ici. C'est une très bonne terre pour la pêche.
C'est
une fraîche en avant.
En été, là, je prends entre 10 et 15 poissons à l'heure, en moyenne, avec des gens qui n'ont jamais pêché de leur vie. Ils n'en reviennent tout simplement pas qu'on est tout seul sur le fleuve. Là. Les jours de semaine, là, je peux compter les bateaux que je croise dans la journée. Puis on a ça, là, en se levant les yeux là, derrière nous. Là.
Tu vois Montréal de l'eau, surtout quand tu es dans le fleuve. Tu passes en dessous des ponts, tu arrives dans le centre-ville. En bas des rapides, c'est hyper naturel. Tu vois pas de maison, tu vois pas de bâtiment, tout ça. Tu arrives dans le centre-ville, tu as des gros bateaux, tu as le port, tu as les silos. En 5 minutes, ou en 15 minutes, tu vois quatre paysages différents.
À Montréal de vous expliquer, de vous dessiner l'archipel des îles montréalaises. Peu de gens vont être capables de le faire. C'est très complexe. Et si vous demandez aux gens de visualiser où se trouve le lac Saint-Louis par rapport au lac des Deux-Montagnes, quel est l'accès par l'eau entre ces deux plans d'eau-là, où se trouve l'île Bizarre, l'île Perrault, l'île des Sœurs, où se situe l'île Notre-Dame, l'île Sainte-Hélène, c'est pas évident. Et donc, pour découvrir cet univers-là, bien, on peut le faire à pied ou en bateau.
Dans l'histoire, on a comme fait abstraction à un moment donné du fleuve, on l'a complètement oublié, alors que c'était l'autoroute. C'était ça, l'autoroute des Caraïbes métropolitaines, c'était le fleuve avant. On a des photos, là, où il y a les traversées qui partaient, qui s'en allaient à la prairie, qui revenaient. C'est incroyable.
Un système de navette en place à partir de Montréal-Vieux-Port. quelques lieux, Longueuil, Boucherville, bientôt à partir de l'Est de Montréal. Il faut dire que bon, ils rencontrent ce même problème-là ailleurs, mais il serait important d'intégrer le système de navette fluviale au système de transport en commun. Ça, pour moi, c'est une évidence. C'est une façon de découvrir notre île et les îles qui l'entourent lorsqu'on n'a pas de bateau, lorsqu'on n'a pas de kayak ou de canot.
Redécouvrir notre insularité
et la mettre en valeur.
Là, c'est rendu sur toutes les lèvres, tous les partis politiques en parlent, redonner accès au fleuve aux citoyens de Montréal, aux dernières élections, c'était partout. Sauf qu'en ce moment, c'est encore un petit peu un catchphrase. C'est encore un petit peu, oui, on va redonner l'accès au fleuve. Ouais, mais comment?
Bien évidemment, on voit beaucoup de projets, on entend beaucoup plus les mots Fleuve-Saint-Laurent depuis les dernières élections, au niveau municipal, puis en ce moment, ça continue énormément au niveau provincial avec la stratégie maritime du ministre Damour.
Oui, il faut développer ces projets-là, mais c'est bien beau les concepts, maintenant, il faut les réaliser. Et ça, c'est le pas qui reste à faire. La volonté est là, les idées sont là, maintenant, il faut mettre l'argent pour que ça se fasse.
J'espère qu'on est en train de sortir de cette période-là tranquillement à Montréal. Mais je dois dire que l'inertie est difficile à briser. Mais on sent que ça bouillonne, effectivement, avec la notion des célébrations 375e de Montréal en 2007. Mais là, faut que ça passe.
Étant une île, Montréal a une relation privilégiée avec l'eau. Elle fait partie de notre identité, se retrouve au cœur de quantité de programmes et de projets municipaux. La question d'eau touche à peu près tous les aspects de la vie municipale. La sécurité, l'économie, l'aménagement urbain, l'environnement, les loisirs, la salubrité, les infrastructures, les transports. On est en train de se réapproprier. J'ai dans mon équipe non seulement une spécialiste des questions de l'eau, mais également une passionnée. Bien sûr, je parle de Mme Chantal Rouleau, notre membre du comité exécutif, responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, qui est également mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.
Aujourd'hui, nous franchissons une étape capitale et sans précédent pour l'accès au fleuve Saint-Laurent et à la rivière des Prairies. Une nouvelle fenêtre incroyable est en train de s'ouvrir sur le fleuve. Il est maintenant temps d'ouvrir des fenêtres partout à Montréal et de faire profiter tous les Montréalais des bienfaits de bouffer d'air frais, l'air du fleuve, l'air de la rivière. Enfin, nous lançons un plan de l'eau qui fait le pont entre la qualité de l'eau et les accès aux berges. Nous sommes prêts à entreprendre différentes actions et c'est ce que le plan de l'eau prévoit par différents projets et programmes. Nous allons de l'avant avec le projet de bain portuaire dans le Vieux-Port. Nous travaillons avec enthousiasme avec la Société du Vieux-Port et un comité de pilotage est déjà en place pour faire progresser rapidement ce projet et lancer une première étude pour déterminer le concept et les aspects techniques. Notre objectif est l'été 2016 si possible, sinon 2017 ou plus tard, à temps pour le 375e. En plus des projets qui verront le jour, nous vous présentons deux programmes pour encourager l'accès. Le premier, soit le programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air, donnera le coup de pouce nécessaire aux OBNL et aux arrondissements offrant des activités de plein air à développer de nouveaux services à la population. Le second, le programme de soutien pour augmenter...
Il n'y a rien de sorcier maintenant. On regarde n'importe où dans le monde, c'est une des voies d'évolution des villes qui ont la chance d'être en rapport avec l'eau d'une manière ou d'une autre. C'est pratiquement toutes les villes, là.
On va parler beaucoup d'accès au fleuve dans les prochaines années. On le voit, nous, à Verdun, je vous dirais, ça fait peut-être 10 ans que les gens ont commencé à changer de regard. On regardait vers le centre-ville, on regardait vers l'intérieur de l'île, si vous aimez mieux. On avait perdu le regard sur le fleuve, on l'avait comme oublié. De se redonner aussi une signature de collectivité en disant « mais on est des gens d'eau, dans le fond, on l'a perdu en chemin, là, puis là, il faut récupérer cette histoire-là. »
Il y a un aspect culturel. C'est culturel dans le sens des valeurs sociales, des attitudes, de la relation avec la nature. Hey, t'as le droit de t'acheter 3 autos, puis de déménager en banlieue, puis de t'approprier privément une partie de la rive. C'est même des indicateurs de succès, de réussite. Et qu'est-ce qui a expliqué au début qu'on a construit ce formidable réseau touristique des années 60? En 1960, il y avait 100 000 autos dans la région de Montréal. 100 000 autos. Aujourd'hui, il y en a 2,4 millions. C'est pas un si formidable réseau de routier pour 100 000 autos. Voyons, s'il vous plaît. Niaise-moi. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Mais quel était le motif psychosocial profond? On sortait de la grande noirceur. On avait honte. On voulait se rassurer quant à notre pleine appartenance à l'Amérique. Quant à notre égalité dont on doutait. On a eu une crise existentielle dont on a prétendu se guérir en disant nous aussi on peut être américains, plus que les Américains. Basculement culturel qui ne s'est pas encore opéré ici. La journée que les gens vont découvrir ce que peut être une ville moderne aujourd'hui, là, et la proposition qualité de vie, beauté, accessibilité, que peut faire une ville, notre perception, notre feeling de Montréalais ou de Grand Montréalais ne sera plus le même. Quand on va dire à un Européen ou on va dire viens dans mon île, c'est extraordinaire vivre sur mon île. Y a-t-il un Montréalais qui dit ça aujourd'hui? C'est extraordinaire sur mon île. Alors, cette relation à l'eau est devenue l'une des clés du renouveau urbain partout dans le monde. C'est une des avancées que nous devons connaître dans les prochaines années. On n'a pas le droit de passer à côté de ça.
Vous venez d'entendre la création de Guillaume Campion et Guillaume Côté dans le cadre de leur projet Archipel. Vous pouvez la retrouver sur le site projetarchipel.com ainsi que les autres sons réalisés dans le cadre du projet. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte sonore, même jour, même heure et même fréquence.
Les ondes buissonnières.
Oui.
Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.